Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu.
Jésus dit, Père, je proclame ta louange, je te bénis, Père. C'est assez rare de voir Jésus prier, enfin c'est pas rare de le voir prier, c'est rare d'entendre sa prière. Dans l'Évangile, nous avons trois fois la prière de Jésus, cette fois-ci, qui est une prière de louange. Une autre fois, c'est la prière de demande, la prière de supplication, dans le moment de l'agonie au Jardin des Oliviers, et puis la longue prière de Jésus, le Fils, le chapitre 17 de saint Jean, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Et puis on pourrait ajouter encore, enfin, la prière du Notre Père, qui est la prière des prières, la prière de Jésus par excellence, la prière du Fils qui s'adresse au Père et que Jésus nous a enseigné. Ici, c'est une prière de louange. Je te bénis, Père. La louange du Fils, la joie du Fils, la joie de Dieu. Jésus vient de se frotter avec les pharisiens, un peu gravement. Les pharisiens qui refusent son enseignement, qui rejettent Jésus. Et Jésus entre en lui-même et s'adresse à son Père suffisamment fort pour qu'on l'entende. Je te bénis, Père. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Tout vient du Père, et Jésus sait que son enseignement ne touche que les sages et les savants. Que son enseignement ne touche pas les sages et les savants, qu'il ne touchera que les petits. Jésus le sait, il se fera même rejeter jusqu'au bout, jusqu'à être crucifié, parce que ceux qui se croient, ceux qui croient savoir, le rejetteront pour toujours. Ce sont des sachants, c'est terrible les sachants, ceux qui savent. On ne peut pas leur enseigner. On ne peut enseigner que ceux qui ne savent pas, ceux qui demandent, ceux qui ont un cœur de pauvre. Les pauvres qui interrogent, qui ont soif. Les malades qui guettent un regard du médecin, qui n'ont pas appris d'abord tout ce qu'ils pouvaient lire sur Internet et qui vont voir le médecin en disant « Je sais ce que j'ai, docteur, donnez-moi ce médicament et celui-là. » Ce sont les brebis épuisées qui n'ont pas de berger, qui cherchent quelqu'un pour les conduire. Ce sont les pécheurs qui n'ont aucune prétention, qui se savent pécheurs et qui s'en remettent à celui qui juge avec justice. Quand on prêche, on sait bien que y en a qui savent, on ne peut rien leur enseigner. C'est terrible de prêcher devant des gens qui sont fermés, on n'a plus rien à dire. Au contraire, quand on prêche devant des personnes qui sont ouvertes, qui ont soif, on dit même des choses qu'on n'avait pas prévu de dire parce que l'Esprit parle en nous. C'est vrai, les petits sont méprisés par les savants, mais ils ont l'esprit libre. Peut-être on confie aux petits ce qu'on a à dire au fond. C'est aux petits que Jésus s'adresse. C'est toujours des pauvres, des pécheurs qui sont autour de Jésus. Et c'est ce qui va provoquer d'ailleurs la jalousie des grands prêtres, la jalousie des pharisiens. Comment se fait-il que lui est suivi par les pauvres et les petits, alors que nous avons si peu d'audience? La révélation se fait au tout petit, et il y a un seul révélateur, c'est lui, Jésus. Lui seul connaît le Père, lui seul connaît la miséricorde du Père, parce qu'il vit dans cette miséricorde, il vit dans le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. En vérité, il peut dire « Tout m'a été confié par mon Père. Nul ne connaît le Père sinon le Fils. Nul ne connaît le Fils sinon le Père. » Il y a une connaissance mutuelle dans l'Esprit Saint. C'est déjà une ouverture, une porte ouverte sur la Sainte Trinité, le mystère de la Trinité. Le Père et le Fils sont unis dans une connaissance mutuelle. Connaissance dans la Bible, c'est l'amour. L'époux connaît son épouse quand il l'aime. L'épouse connaît son époux. Ça va jusqu'à d'ailleurs l'union dans la chair pour les époux. Le Fils connaît le Père, c'est-à-dire qu'il l'aime. C'est un amour, une connaissance d'amour, une connaissance profonde. C'est l'intelligence du cœur qui parle. Une connaissance intime dans l'esprit. Nul ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et encore une fois, qui cherche le Père? Qui a soif du Père? Les apôtres demandaient à Jésus, « Père, Jésus, Seigneur, Maître, apprends-nous à prier. » Et Jésus leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Ce sont ceux qui prient avec Jésus et en lui qui sont conduits à connaître le Père. Voilà la grande question que posait saint Paul tout à l'heure dans l'Épître aux Romains. Vivez-vous selon l'esprit de celui qui a été ressuscité d'entre les morts ou vivez-vous selon la chair? Alors il faut faire attention, la chair c'est pas le corps. Vivre selon la chair c'est pas vivre selon le corps, comme si c'était le contraire de vivre selon l'âme qui serait l'esprit. La chair pour saint Paul c'est ce qui est créé. La chair pour saint Paul c'est vivre en dehors de Dieu, c'est vivre par soi-même. C'est vivre indépendamment de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu vivent selon la chair. Ceux qui connaissent Dieu et qui cherchent à l'aimer, ce sont ceux-là qui vivent selon l'Esprit. On connaît des grands théologiens qui sont très forts, très savants, mais ils n'ont pas la foi. Ils ne cherchent qu'à connaître intellectuellement pour remuer des concepts sur Dieu. Mais ils ne le connaissent pas personnellement. Est-ce que je connais le catéchisme par cœur ou est-ce que je cherche à aimer Dieu pour le rencontrer en vérité, pour être conduit par Jésus? Il y a ceux, au contraire, à l'envers, qui s'en fichent, qui n'ont besoin de rien, n'ont besoin de rien ni de personne. La religion, j'en ai pas besoin. Ceux-là aussi vivent selon la chair. C'est le contraire des mendiants. Les mendiants qui savent qu'ils ne savent rien, qu'ils ne connaissent rien, alors eux savent tout par le Fils. Le Fils d'ailleurs n'exécute pas simplement les ordres du Père, il a une volonté propre, une volonté qui est parfaitement ajustée à celle du Père. Mais Jésus veut ce que le Père veut, et Jésus choisit ceux à qui il fait connaître ce mystère. Ceux à qui il fait connaître ce mystère, ce sont ceux qui sont sous le poids du fardeau. Ce sont ceux qui sont abattus par la vie difficile. Les accablés, les affligés, tous ceux-là sont invités. Et c'est à eux seuls que le mystère est révélé. c'est à eux seuls qu'est promis le repos. Ils se déchargent de leur fardeau pour prendre celui de Jésus. Prenez sur moi, sur vous mon joug. Mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Le joug que porte Jésus, le fardeau qu'il porte, c'est sa croix. Sa croix est pourtant très lourde, sa croix est terriblement lourde. Lui, le saint, l'innocent parfait, il porte le péché du monde, mais il le porte avec joie, par amour de son Père, par amour de ceux que le Père lui a donnés. Ce fardeau devient léger quand il est porté par l'amour. Toute souffrance devient légère si elle est portée par Jésus, avec lui, en lui. Il est humble de cœur, il est doux dans son âme, alors tout devient léger. Le Messie vient, le roi vient sur un âne, sur un petit ânesse. Il vient et on l'acclame. Regardez celui qui vient, non pas triomphant comme un roi puissant. Sa puissance n'est pas une puissance selon la chair, sa puissance est une puissance selon l'esprit. C'est la puissance de sa miséricorde, la puissance de l'amour, de celui qui va jusqu'au bout, qui se donne jusqu'au bout. C'est le contraire de ceux qui veulent faire leur propre sainteté, de ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, qu'ils le veuillent ou non, ceux qui savent mieux que Dieu ce qu'il veut. Nous voudrions chercher à faire humblement la volonté du Père. Que le Seigneur nous révèle ce qu'il veut pour nous. Voilà que beaucoup s'en vont en vacances. En tout cas, l'été est un moment plus léger pour beaucoup. C'est le moment de contempler le Christ plus intensément pour réapprendre à vivre selon l'esprit et non plus selon la chair. Pour apprendre et pour choisir de porter son fardeau à lui, de se mettre sous son joug pour marcher à son pas. Alors nous trouverons le vrai repos, celui qui est la connaissance de Dieu. Est-ce que nous cherchons le repos, le far niente? Qu'est-ce que c'est le far niente? Faire rien, ça n'est pas ne rien faire. Faire rien, c'est se laisser conduire par le Seigneur. C'est ce que je nous souhaite pour les vacances, en suivant Marie, qui est le modèle de ceux qui se laissent conduire, de ceux qui sont vides d'eux-mêmes pour être comblés par l'Esprit.